السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الجمعة الماضية بدأنا في قراءة أو شرعنا في قراءة الكتاب القيم عمدة الأحكام للعلامة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. La semaine passée, nous avons commencé la lecture du livre عمدة الأحكام du grand savant عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Et nous avons étudié plusieurs ahadiths relatifs aux jeunes. Et nous avons appris les deux signes marquant l'entrée du jeûne du mois de Ramadan, ou plutôt l'entrée du mois de Ramadan. Par la suite, le hadith nous montrant quand est-ce que la personne a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan et quand est-ce que le mois s'interrompt. Puis dans le troisième hadith, hadith d'Anas radiallahu anhu, nous avons vu le caractère recommandé du repas d'avant le fajr, al-sahur, et qu'il comprenait et renfermait une bénédiction. Et nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, sur le quatrième hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit, qui nous montre le temps qu'il y avait entre le sahur et le fajr, c'est-à-dire combien de temps avant le fajr le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avant d'entamer une nouvelle journée de jeûne. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهلي ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم. عائشة l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, et Umm Salama radiallahu anha pareillement. Elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à l'heure du fajr en wa huwa junub, c'est-à-dire en état de janaba, min ahlihi, c'est-à-dire suite à un rapport avec ses épouses. ثُمَّ يَغْتَسِلُوا. Après cela, il se lavait. وَيَصُوم. Et il jeûnait. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. مَوْضُوعُ الْحَدِيثِ. Quel est le sujet de ce hadith? حُكْمُ الصَّوْمِ حُكْمُ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُوبًا. Quel est le jugement du jeûne de celui qui se lève le matin en état de janaba, c'est-à-dire que l'heure du fajr entre et qu'il n'a pas encore pris sa douche. Quel est le jugement du jeûne de cette personne? Ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassait le fajr, c'est-à-dire l'entrée du fajr, et il n'avait pas encore fait al-ghusl, le lavage. الغسل للافاج. وهو جنب من أهله أي بسبب الجماع. وهو جنب من أهله il est en état de janaba suite à ses épouses, c'est-à-dire qu'il avait eu un rapport avec ses épouses. قيد في هذا الحديث من أهله. Ici on nous a spécifié ce point-là. نعم. Ici on nous a spécifié ce point-là et ça nous donne deux informations. نستفيد من هذا القيد أمران أو أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغسل متعمدا. La première information que nous tirons du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a retardé volontairement le ghusl. A retardé volontairement le ghusl. Parce que le fait d'être en état de janaba, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Parmi les causes, al-ihtilam, le fait d'avoir fait un rêve et cela a fait sortir le liquide. Ici, ça n'est pas le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit wa huwa junubun min ahlihi. Donc on aurait pu dire qu'il ne s'est pas rendu compte, donc il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans l'heure du fajr. Non, ici le prophète alayhi salam volontairement a retardé le ghusl après l'entrée du fajr. Après l'entrée du fajr, donc volontairement. La deuxième information qu'on tire de cela, la yajibu al-mubadara na'am lil-irtisal. C'est qu'on tire de cela que celui qui commerce avec son épouse n'a pas l'obligation de faire le ghusl directement après. Mais il peut retarder le ghusl. Mais il peut repousser le lavage. Aussi, certains savants ont dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ses particularités, le fait qu'il ne soit pas sujet à al-ihtilam. Al-ihtilam, c'est la sortie du liquide suite à un rêve durant le sommeil de la personne. Al-ihtilam, na'am, ils appellent ça la pollution nocturne, c'est-à-dire que la personne dort et lorsqu'elle se réveille, elle trouve le liquide. Soit elle se souvient du rêve, soit elle ne se souvient pas du rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sujet à cela. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Et un autre hadith nous dit que al-ihtilam min ash-shaytan. Que l'ihtilam, ça vient du shaytan. Et le shaytan ne peut jouer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'était point sujet à cela. Naam. Nastafid min madha min hadha al-hadith fawaida adida. Ulaha ou ulahun صحة صوم الجنوب من جماع وإن لم يغتسل قبل طلوع الفجر. On tire de ce hadith que le jeûne, le siyam de la personne qui est entrée dans l'heure du fajr en état de janaba suite à un rapport, même s'il n'a pas encore fait le ghusl, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. On aurait pu penser que si la personne est en état de janaba, na'am, ce jour de jeûne n'est pas valable et elle doit le rattraper. Non. Celui qui est en état de janaba, ça n'affecte pas son jeûne. Ça n'affecte pas son jeûne. Car la cause a eu lieu avant le fajr. Car la cause a eu lieu avant le fajr. Et une image qui est semblable est l'image de la femme qui avait ses menstrues. Une femme qui a ses règles. Et ses règles s'arrêtent avant le fajr. Elle s'arrête avant le fajr. Mais le ghusl, le lavage, elle ne le fait qu'après l'entrée du fajr. Est-ce que son jeûne est valable ou pas si elle a mis l'intention? Na'am. Donc, à partir du moment où ses menstrues s'arrêtent, elle a l'obligation de jeûner le lendemain. Si elle s'arrête juste avant le fajr, et que soit elle n'a pas eu le temps de faire le ghusl, soit elle a retardé le ghusl volontairement. Naam. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes après l'entrée du fajr, ensuite elle se lave et elle prie. Naam. Son jeûne est valable. De la même façon, celui qui est en état de janaba, son jeûne est valable. Même s'il ne s'est pas lavé avant l'entrée de l'heure du fajr. Donc ça n'est pas une obligation de se laver directement. Naam. Donc le jeûne est valable. Et ce hadith est en réalité une réponse des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la question qui a été posée par un tabi'i rahimahullahu ta'ala Marwan ibn al-Hakam. On tire également de ce hadith Al-Ruju'u fil-ilm ila man huwa aqrabu wa aktharu ihatatan bih. On tire de ce hadith que lorsque tu as une question à poser sur un sujet, tu reviens à la personne qui maîtrise le mieux le sujet. Qui est-ce qui maîtrise le mieux l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui? Qui est-ce qui connaît le mieux comment est-ce que le prophète alayhi wa sallam faisait le ghusl, le comportement qu'il avait chez lui, et ainsi de suite? Dites-moi. Ceux qui vivent avec lui, c'est-à-dire ses épouses, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici que cette information nous est donnée par qui? Par Aïcha radiallahu anha et par Umm Salama radiallahu anha, qui sont qui pour lui? Ses épouses. Naam. Donc, lorsqu'on a une question à poser sur un sujet particulier, on revient à celui qui est le plus à même de nous répondre dans cette mas'ala. Naam. Les ulama ont une science, naam, en général, et ils ont une science générale sur l'islam. Puis, après avoir eu le niveau requis dans chaque science, certains empruntent le chemin de ce qu'on appelle le tahassus. Ils se spécialisent dans une branche, dans une science particulière, comme la science du hadith, naam, ou bien de la langue arabe, ou autre. À ce moment-là, lorsque tu as une question, si tu as connaissance d'un savant qui a une science toute particulière dans ce domaine, il est bon de revenir à lui, même si ça n'est pas une obligation. Tu peux revenir à Alim, à partir du moment où il est savant, tu peux lui poser ta question. Mais si toi tu as connaissance d'un savant, naam, qui en plus de cela a une spécialité, à ce moment-là il est bon de le questionner lui, car il est savant par exemple du hadith. Naam. Ou de le questionner lui, car il est savant dans Usul Fiqh, ou bien dans Musalah Hadith, ou bien dans, yani, dans une science particulière. On tire de ce hadith Jawaz al-Tashrihi bima yustahya minhu li maslaha. La permission de citer de manière explicite certains sujets qui sont gênants à la base, car il y a une utilité. D'accord? Car il y a une utilité. On voit ici dans le hadith que Aïcha radiallahu anha, cette femme pudique, et Umm Salama, cette femme pudique, ont cité une chose qui a trait à la vie intime du couple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les concerne elles-mêmes directement. Malgré cela, de par la science que renferme cette chose-là, elles se sont permises de la citer. Lil maslaha, parce qu'il y a une utilité pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, par moment, le mufti, le savant, le prêcheur, l'imam, l'enseignant, le parent, d'accord, ou l'enfant, peut être dans le besoin de citer certains mots qui à la base sont gênants et on ne parle pas de ces sujets-là. Mais si tu as besoin de cette science-là, alors tu poses la question même s'il y a des termes gênants. Et comme on le verra, il est bon en général d'utiliser la paraphrase ou des mots qui font comprendre le but sans avoir à citer les mots qui sont gênants. Naam, sans avoir à citer les mots qui sont gênants. Pas un exemple en français. Au lieu de dire un rapport, la personne va dire commercer. Il commerce avec son épouse. Ça entre dans ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra, naam, dans de nombreux ahadiths, faisait ainsi. Car il était très pudique. Wal haya min al iman. Et la pudeur est une branche du iman. On tire de ce hadith que fi'lun nabi sallallahu alayhi wa sallam hujja. L'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve en islam. Naam. Tu dis, je fais telle chose de telle manière. On te dit, c'est quoi la preuve? Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait comme dans tel hadith. Ça, c'est une preuve en islam. Ceci est une preuve en islam. Les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est le messager d'Allah. Car c'est le messager d'Allah. Et Allah nous dit dans le Coran, اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Ibn Jalal al-Tabari, rahimahullah, et d'autres disent, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et dans le Coran, Allah nous dit, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Naam. Et la Sunna est la deuxième révélation. La Sunna est la deuxième révélation. On tire également une information subtile de ce hadith. Al-farqu bayna al-fi'l wa atharih. C'est qu'il y a une différence entre l'action et ses effets. En l'occurrence ici, l'action c'est quoi? Al-jima', c'est le rapport avec l'épouse. Et l'effet c'est quoi? C'est le janaba. D'accord? Celui qui fait l'action fi nahari Ramadan, celui qui fait cette action pendant la journée de Ramadan, est-ce que son jeûne est valable ou pas? Non, celui qui a un rapport durant la journée de Ramadan, son jeûne est batil, il est annulé. Non, mais c'est très grave, et on verra ce hadith, incha'Allah ta'ala. D'accord. Celui qui est en état de janaba durant la journée de Ramadan, est-ce que son jeûne est authentique ou il est batil, il est bon ou il n'est pas bon? Fitafsil, ça dépend la cause. D'accord? Ça dépend la cause. Mais il y a une différence entre l'action et l'effet de l'action. Naam. Se retrouver en état de janaba durant la journée de Ramadan n'annule pas forcément le jeûne. Comme celui qui a dormi, se réveille et il trouve le liquide. Naam. Par exemple. Donc, on tire cette grande faïda. Man jama'a ahla qabla al-fajr thumma dakhala al-fajr. Naam. وَلَمْ يَغْتَسِلْ بَعْدْ فَصِيَامُ صَحِيحٌ. Donc on retient cela. Celui qui commerce avec son épouse avant le Fajr, la nuit de Ramadan, puis arrête avant le Fajr, entre dans le Fajr avant de s'être lavé, son jeûne est valable. Son jeûne est valable, même s'il se lève, il ne se lave qu'après cela. Le hadith suivant, naam, une faïda très importante à citer. في فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنهن نقلن لنا علما غزيرا. On voit également le mérite des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم نعم de par la grande science qu'elles nous ont transmise. Beaucoup de choses ayant attrait à la vie dans le foyer, au comportement du prophète عليه الصلاة والسلام chez lui, aux choses licites, aux choses illicites. Tout ceci nous a été rapporté par ses épouses, donc elles ont un grand mérite. Elles ont un grand mérite, et particulièrement Aïcha radiallahu anha, cette femme très savante. Le sixième hadith, al-hadith al-sadis, an Abi Hurayra radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala: Man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw sharib, falyutimma sawmah. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. Le sixième hadith est rapporté par Abu Huraira, selon Bukhari et Muslim, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: celui qui a oublié alors qu'il jeûne, il a donc mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne. Car certes, c'est Allah qui l'a nourri, il l'a abreuvé. Certes, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Quelqu'un jeûne. Donc, par définition, il s'abstient de manger et de boire. Mais par oubli, il mange ou il boit. Par oubli, il mange ou il boit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: falyutimma sawma. Qu'il poursuive son jeûne, qu'il complète son jeûne jusqu'au maghrib. Car certes, c'est Allah qui lui a donné à manger et à boire. موضوع الحديث حكم الصيام من أكل أو شرب ناسيا. Le sujet du hadith est le jugement de celui qui a mangé ou a bu en état de jeûne par oubli. Par oubli. Que signifie par oubli? ما هو النسيان؟ النسيان هو العلم بالحكم. L'oubli c'est quoi? C'est que la personne connaît le jugement. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de faire cela, mais elle l'a commis, elle a commis cette action par inadvertance. Na'am, car elle était distraite. Non pas qu'elle l'a fait par ignorance, elle sait que telle chose n'est pas à faire. Mais elle a eu madha, un moment où elle s'est vue distraite. Wa huwa sa'im, celui qui mange et boit en état de jeûne par oubli. Wa huwa sa'im, tout en étant en état de jeûne. Que signifie wa huwa sa'im? Ici, on n'a pas dit c'est Ramadan ou autre. Wa huwa sa'im ya'oum. Idhan, as-sawm al-fard aw al-nafl. Ça englobe tous les jeûnes. Que ce soit un jeûne obligatoire, comme Siyam Ramadan, comme Al-Nadr, comme Al-Kaffara, ou que ce soit un jeûne recommandé, comme le jour de Arafat pour celui qui n'est pas au Hajj, comme Ashura, comme Ayyamul Bidh, ou le lundi, ou le jeudi, ou autre, un jeûne mutlaq. Tous ces gens-là sont concernés. Tous ces gens-là sont concernés. Même quelqu'un qui fait un saum, un nafl, yani non obligatoire, il entre dans ce hadith. S'il mange ou boit par oubli, ça n'annule pas son jeûne. Ça n'annule pas son jeûne, il peut le poursuivre. Et lorsqu'on dit ça n'annule pas son jeûne, c'est-à-dire que son jeûne est complet. Non pas que ça a diminué sa récompense ou autre, non. Son jeûne est bon, son jeûne est valable. C'est comme si c'est Allah Azza wa Jal qui lui avait donné à manger et ou à boire. Wa قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وشرب نستفيد من هذا أن من المفطرات بل من أصول المفطرات الأكل والشرب. On tire de ce hadith que parmi les bases des annulatifs du jeûne, il y a le fait de manger ou de boire. أصول المفطرات ثلاثة. Les grandes bases des annulatifs du jeûne sont nombre de trois. الأكل والشرب, on les voit dans ce hadith. Et la troisième base, on la verra inshallah ta'ala dans le dernier hadith qu'on étudiera inshallah. Ta'ala. Donc, manger et boire volontairement, avec la raison et en se rappelant que nous sommes en état de jeûne, avec science, annule le jeûne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, فَلْيُطِمَّ صَوْمَ, qu'il poursuive son jeûne. أَلَّمْ هُنَا لِلْأَمْرُ نَعَمْ أَيْ فَلْيُطِمَّ صَوْمَهُ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ لَا نَقْصَ فِيهِ بِهَذَا السَّبَبِ. Qu'il poursuive son jeûne, c'est-à-dire son jeûne religieux, religieusement parlant, il est bon, il est valable. Et il n'a pas été entaché par cette erreur due à l'oubli. Na'am, khilafan li Malik, rahimahullahu ta'ala, imam, ahli sunna, imam d'ahli l'hijra, rahimahullahu ta'ala. Contrairement à ce qu'a dit le grand imam, l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, qui était le grand savant de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à son époque, et son madhhab s'est propagé grandement en Afrique et dans d'autres régions du monde. Ce grand savant de la sunna avait pour avis que son jeûne, le jeûne de celui qui mangeait ou buvait par oubli, n'était pas valable. Mais de ce hadith, on voit qu'il est valable. Et l'imam Malik rahimahullahu ta'ala n'était pas un imam qui appelait à sa personne, c'était un imam de la sunna. Et comme les imams de la sunna, ils appelaient à la sunna. Ils n'appelaient pas à leur propre personne. Ils appelaient au tawhid à la sunna. Et parmi ces phrases connues, na'am, il nous disait, rahimahullahu ta'ala, que si on trouve une de ces paroles qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fallait prendre sa parole et la jeter contre le mur et prendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous nous disons que si on trouve une parole de l'imam Malik, que les savants de la sunna ont montré que cette parole n'était pas en adéquation avec la sunna, alors on laisse la parole de l'imam Malik pour prendre la sunna et on maintient le respect et la considération qu'on a pour l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Mais il a dit cela en ces termes pour montrer l'importance de la sunna, et que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam prévaut sur la parole de quiconque autre, quiconque après lui sallallahu alayhi wasallam. Quant à l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, lui avait pour avis que la personne poursuit son jeûne mais qu'il n'est pas valable, et qu'elle yani alayha al-qada, et que la personne devra rattraper ce jour. Mais l'avis prépondérant est de dire que le jeûne est valable et que la personne n'a pas rattrapé ce jour. Prenons un cas de figure concret. Une personne jeûne le mois de Ramadan. Naam. Et à 19h, cette personne a l'habitude de rentrer du travail. Elle rentre chez elle. Et quand cette personne rentre chez elle, elle a l'habitude de prendre un verre d'eau. À chaque fois qu'il rentre du travail, il a l'habitude de prendre un verre d'eau. Naam. Et comme c'est une famille où les enfants sont pieux et bien éduqués, il se concurrence pour lui apporter son verre d'eau. Et cet enfant-là qui est petit a l'habitude de faire ça à chaque fois que son père entre. Donc il a couru, il lui a donné le verre d'eau. Le père a pris place après avoir passé le salam. Il a pris place et il a bu ce verre d'eau. Puis son épouse entre dans le salon et lui dit « Mais tu jeûnes pas ?» Il dit « Subhanallah, j'ai oublié. » Quel est le jugement du jeûne de cet homme ? Quel est le jugement du jeûne de cet homme ? Qu'est-ce qu'il devra faire, Yanis ? Il doit continuer. Pourquoi est-ce qu'il continue ? Ben parce que le prophète sallam l'a dit, comme tu as dit, na'am. Et qu'en est-il de son jeûne ? Il est valable, pas valable ? Il devra rattraper, pas rattraper ? Il est valable. Na'am. Son jeûne est valable parce qu'il a fait ça par oubli. D'accord. Dans le cas où il dit « Khalas » et il continue à boire. Hein ? Il continue à boire. Quel est le jugement de son jeûne ?
Là, il savait que c'était un oubli, mais après, il a rajouté. C'est un rajout.
Quel est le jugement de son jeûne ?
Il n'est pas bon.
Son jeûne est batel. À ce moment-là, son jeûne n'est pas valable. La première fois, il a bu, par exemple, les trois quarts du verre. Et c'est de l'eau fraîche. Naam, ça l'a désaltéré parfaitement. Son jeûne est valable ou pas ? Il est valable. Parce qu'il a fait ça nasiyan. Innama at'amahu Allah wa saqah. Par la suite, il lui restait deux gorgées. Il a bu les deux gorgées. Naam, à ce moment-là, son jeûne est batel. Les trois quarts du verre n'ont pas annulé son jeûne. Et le dernier quart a annulé son jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait muta'ammidan, dhakiran, aliman. Parce qu'il a fait cela en connaissance de cause. Il a fait cela avec science, il a fait cela volontairement. Son jeûne n'est pas valable. Son jeûne n'est pas valable. Donc il faut faire attention à ce point-là. De nombreuses fois, on entend des gens dire « Moi c'est bon, j'ai cassé mon jeûne. » Mais comme il est faible, il veut manger, il veut boire, il dit « De toute façon, je dois le rattraper. » Non. Il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de boire. Après s'être souvenu, il doit poursuivre son jeûne. Non. Un autre cas de figure. Un lundi, un homme pieux a l'habitude de jeûner. Ou bien un homme est venu à un dars et il a appris le vendredi que parmi la sunna, le fait de jeûner le lundi, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le jour où il est né. Alors, reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla, Allah lui a légiféré ce. Taïb. Cet homme-là dort donc la nuit du dimanche au lundi. Naam. Et il veut jeûner. Il se réveille en état de janaba au fajr. Vous suivez ? Il se réveille en état de janaba au fajr. Puis il se lave et au masjid il fait salat al-fajr. Naam. Et il a mis l'intention de jeûner. Puis, à midi, naam, il rentre du travail. Et il a l'habitude lorsqu'il entre que son épouse lui serve à boire. Naam. Il entre chez lui. Elle lui sert à boire. Et lui n'a pas informé de ce jeûne-là. Il voulait laisser cela entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Il prend ce verre et il le boit. Il prend ce verre et il le boit. Puis il se souvient. Il s'arrête de boire. Est-ce que le jeûne de cet homme est valable ? Premièrement, il s'est réveillé après l'entrée du fajr. Par exemple, on va dire à 3h45 du matin. Naam. Et de plus, il est en état de janaba, il a fait le rusk après cela. De plus, il a bu ou mangé à midi. Puis s'est arrêté lorsqu'il s'est souvenu de son état. Quel est le jugement du jeûne de cette personne ? Naam. Il est valable. Il n'a pas fait le rusk avant le fajr. Et il a bu de l'eau et son jeûne il est valable. Vous êtes d'accord ou pas? Non? Ça dépend. Ça dépend, ça ne marche pas tout le temps. Fait tafsir, ça ne marche pas tout le temps. Vous voyez? Faites-moi me rappeler de vous citer une qissa avec fait tafsir. Vous êtes d'accord ou pas? Oui? Naam, son jeûne est valable. Quant au fait qu'il soit entré en état de djenaba dans le fajr, le hadith qu'on a lu avant est la preuve. Quant au fait qu'il a bu par oubli, ce hadith est la preuve que son jeûne est valable. طيب الفقهاء ذكروا قاعدة نافعة قالوا النسيان يجعل الموجود معدوما ولا يجعل المعدوم موجودا. Les savants de la jurisprudence ont dit que l'oubli transforme la chose qui est présente en chose absente, mais elle ne transforme pas la chose absente en chose présente. Je répète. Al-nisyan yaj'al al-mawjuda ma'duma. Al-nisyan, l'oubli, rend la chose présente absente. Wa la yaj'al al-ma'duma mawjuda. Mais ne rend pas la chose absente présente. Quand tu fais une chose par oubli, c'est comme si tu ne l'avais pas faite. C'est comme si la chose était absente. Comme celui qui boit et qui mange par oubli. Non, c'est comme s'il ne l'avait pas fait. Mais ça ne rend pas la chose absente présente. Celui qui a oublié de prier Salat al-Asr, est-ce que comme il n'a pas fait Salat al-Asr par oubli, c'est comme s'il l'avait fait? Ou non? Non, ça ne fonctionne pas. D'accord? On va parler avec des chiffres. Non, on va parler avec des chiffres. Quelqu'un qui a une dette. Non, il a une dette. Il a oublié de te rembourser 100 euros. Comme c'est par oubli, est-ce qu'on dit que c'est comme s'il te l'avait remboursé? Tu les avais remboursés? Non. D'accord? Mais est-ce qu'il est en faute? Non, la faute elle est absente parce que c'est par oubli. On va voir. Le hadith suivant nous enseigne la troisième base de Al-Mufattir. Le hadith suivant nous enseigne la troisième base de Al-Mufattir. An Abi Hurayra radiallahu anhu qal بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك هذا الحديث رواه البخاري ومسلم الحرة الأرض تركبها حجارة سود. Le hadith 187 est un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Il nous dit dans ce hadith alors que nous étions assis en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors qu'un homme vint le trouver. Ô messager d'Allah, s'écria cet homme, je suis perdu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, qu'as-tu ? L'homme répondit, j'ai eu un rapport charnel avec ma femme, alors que j'étais en état de jeûne. Ou suivant une variante, dans une autre version du hadith, j'ai eu un rapport avec mon épouse durant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, as-tu de quoi franchir un esclave ? Non, répondit l'homme. Es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs ? Non, répondit l'homme. As-tu alors de quoi nourrir 60 pauvres ? Non, répondit l'homme. L'homme était resté là. Par la suite, on apporta un araq de date. Un araq, c'est une cagette, c'est un cajot de date. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, où est l'homme qui vient de me questionner? Me voici, répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, prends ceci et fais aumône de son contenu. Prends ceci et fais aumône de son contenu. L'homme objecta, doit-elle être faite à plus pauvre que moi? Tu m'as ordonné de donner cela en sadaqa. Est-ce que je dois donner cela en sadaqa à une famille plus pauvre que la mienne? Je jure par Allah qu'il n'y a pas entre les deux extrémités de Médine une famille qui soit plus pauvre que la mienne. Al-Harratayn, c'est les deux endroits couverts de pierres noires aux deux extrémités de Médine. Donc l'homme a dit, ya Rasulallah, est-ce que je dois donner ça en sadaqa d'une famille plus pauvre que la mienne? Je jure par Allah qu'il n'y a pas plus pauvre d'un bout de Médine à l'autre bout, une famille plus pauvre que la mienne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mise à rire. Naam, se mise à rire, si bien que ses canines apparurent. Puis il ajouta, nourris-en ta famille. Donne cela pour ta famille. Al-Harra est une terre recouverte de pierres noir. موضوع هذا الحديث حكم من جامع في نهار رمضان والكفارة المغلظة. Le sujet de ce hadith est le jugement de celui qui a un rapport durant la journée de Ramadan. Durant la journée de Ramadan. Naam. Dans ce hadith, un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ya Rasulallah halakt. Ô messager d'Allah, je suis anéanti. J'ai péri. Naam. C'est-à-dire, waqa'tu fil ithm al-'azim alladhi yuhliku sahiba bin-nar. C'est-à-dire, je suis tombé dans un péché très grave qui cause la perte de son serviteur en enfer. Naam. Donc ce sahabi est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Et al-halak, c'est le maut. Naam, la destruction totale, en réalité, c'est la mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était raoufun rahim bil mu'minin, qui était compatissant et miséricordieux envers les croyants, lorsqu'il a vu l'état de cet homme, il ne s'est pas montré sévère envers lui. Il s'est montré doux. Naam, il l'a orienté ce vers quoi il allait se délier de son péché et du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, et sortir de son état de peur vers un état de sécurité. Pourquoi cela? Alors qu'on trouve dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré sévère. Comme dans le hadith dans lequel il a pris la bague de l'homme et il l'a jetée par terre. Comme dans le hadith du groupe d'une dizaine de personnes qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Il a refusé de serrer la main de l'un d'entre eux parce qu'il avait une tamima. Il avait du shirk, il avait un talisman, un gris-gris sur lui. Naam. Dans le hadith de celui qui portait de l'or, il l'a jeté par terre. Lorsqu'il a dit à Ali radiallahu anhu et à Fatima, sa propre fille, de se lever pour prier la nuit et qu'ils ne se sont pas réveillés, ils lui ont dit à Rasulallah, les cœurs ou les âmes sont dans la main du tout miséricordieux et lorsqu'il veut, il les réveille. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est un disputeur ou l'homme et s'acharne dans le débat. Il leur a cité un verset qui à la base n'a même pas été révélé sur les croyants. Naam. Ou bien dans la qissa de Ka'b ibn Malik, il lui a fait le hajr, il a ordonné aux compagnons de ne pas lui parler, de ne pas lui passer le salam, pas lui rendre salam. Subhanallah. Pendant 40 nuits, ou pendant un mois, puis il a ajouté des jours à cela. Alors que son sahabi Jalil, subhanallah. Puis Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran pour montrer sa place et qu'il a accepté son repentir. Et ici, dans une action si grave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ma ahlakak ?» Qu'est-ce qui t'a fait périr ? Explique-moi ta situation, on va chercher une solution. Al-Allama Muhammad ibn Salih ibn al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala nous explique cela et dit « Li'annahu ja'a ta'iban nadiman, kha'ifan wajila » Parce que cet homme-là, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur rempli de regret. Il est venu repentant. Il est venu avec regret. Il est venu, il avait peur d'Allah. Il avait peur du châtiment d'Allah. Donc dans ce cas-là, le prédicateur, le savant, l'imam, doit l'accueillir et lui ramener la sécurité. Naam. Il doit l'orienter avec douceur, avec sagesse. Et dans ce cas-là, il n'y a pas lieu d'utiliser la sévérité. Et ça, c'est la sagesse. Certaines personnes veulent tout le temps, yani, par exemple, la gentillesse. D'autres, tout le temps, la dureté ou la sévérité. Non. Likulli maqamin maqam. Naam. Dans chaque situation, tu dois mettre ce qu'il faut. Dans chaque situation, tu dois mettre ce qu'il faut. Et des fois, juste ajouter trop de sel, ça anéantit le repas. Ça anéantit le repas. Naam. Donc, l'éducateur doit utiliser ce qu'il faut lorsqu'il le faut, avec qui il faut utiliser cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Est-ce que tu trouves yani hal yani tastati' an tu'tiqa raqaba ? Est-ce que tu possèdes la richesse suffisante nécessaire à acheter un esclave entièrement et l'affranchir, ou bien affranchir entièrement un esclave? » L'homme a dit non. Puis il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non. Dans une autre version, il a dit, mais est-ce que je suis tombé dans ce péché si ce n'est dans la journée de Ramadan? C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a une grande nécessité de mon épouse. Donc je n'ai pas réussi à tenir 1 mois, comment est-ce que je pourrais tenir 2 mois consécutifs sans rompre ma femme? Il a dit donc non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as les moyens de nourrir 60 pauvres, de donner un repas, naam, par personne? Combien de personnes? 60 pauvres. L'homme a dit non. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé. Soit parce qu'il n'avait pas eu encore la révélation, soit parce que cette personne, tant qu'elle est dans cette situation, elle est excusée. Tant qu'elle est dans cette situation, elle est excusée. De ce hadith-là, de cette partie-là, on tire de nombreuses fawaïd. Parmi ces fawaïd, c'est que le qadi, le juge, si une personne vient le voir pour lui poser des questions, mais qu'elle n'est pas au tribunal, dans sa salle de jugement, la science qu'elle entend, elle ne devra pas le juger avec. Même s'il mérite une punition prévue à cet effet.
Parce que ça, ça fait partie du ilm du qadi avant le jugement. Naam. Et tant qu'il n'est pas dans le jugement, il n'a pas l'obligation de prendre cette science-là pour l'utiliser. Je te donne un cas concret. Deux personnes viennent te voir et tu fais partie des gens de science. Le premier te dit, celui-ci est un voleur et il m'a volé de l'argent. Toi, tu le connais depuis tout petit, tu sais que c'est un gros voleur. Naam. Tu sais que c'est un gros voleur, il est connu pour le vol, wal'iyadhu billah. Et l'autre, le premier, tu le connais pour être véridique. Tu es le juge, tu n'as pas le droit de te baser sur ta connaissance. Tu dois prendre que les faits. Et ça, c'est la justice dans l'islam. C'est que dans ce bas monde, on prend que les faits. Mais s'il triche, demain, il va revenir vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui auprès duquel rien ne se perd. Celui qui sait tout. Et ça, ça tranquillise et ça apaise le croyant. Parce qu'il sait que s'il a réussi dans ce bas monde, en apparence, il ne pourra pas s'échapper yawm al-qiyam. Et ça, ça fait que le croyant il est toujours apaisé. On t'opprime, on parle sur toi, on ment sur toi. T'es mutma'in. T'es toujours mutma'in. Naam. Après le Jumu'ah, il y a un frère qui est venu nous voir et a dit, telle personne dans telle ville et ses élèves, entre guillemets, disent qu'il ne faut pas venir ici écouter le khutbah, il ne faut pas venir au cours. Je lui ai dit, khayr inshallah, qu'est-ce que je te dis? Naam. Des hasanat sans avoir agi. Des hasanat qui viennent à nous sans avoir agi. Subhanallah, qu'est-ce qu'on va dire de ça? Est-ce qu'on peut se plaindre de ça? Naam. Tu ne t'es pas levé. Tu n'as rien dépensé. Les hasanat viennent à toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si ce n'est qu'on s'attriste pour eux. Naam, parce qu'ils parlent dans le faux. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas cela. Car ils prennent des péchés, on n'aime pas cela pour nos frères. Naam. Mais on invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il les guide. Ils se font du mal. Naam. Et ils augmentent les péchés de celui qui les a fait tomber dans cela. Alors que cette même personne-là s'est excusée. C'est entre lui Allah tabaraka wa ta'ala par la suite. Naam. Donc, le fait de savoir qu'on revient vers Allah Azza wa Jal, t'es toujours mutma'in. T'as pas le temps pour ces choses-là. Toi, t'es majroul, t'es fait Ramadan. T'es dans les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 derniers de Ramadan, t'as pas le temps pour ça. Naam. Ici, le juge, il ne prend pas en considération ce qu'il connaît, cet arbre. Mais il va prendre les faits seulement. Il va prendre les faits seulement. Une autre faïda, lorsque le sahabi a dit halaktu, on voit la place de sahaba devant les péchés. Le sahaba n'était pas comme nous. Faire un péché, puis un second, puis un dernier. Non. Pour eux, faire un péché, c'était une chose qui détruit l'homme. Et ils avaient pleinement conscience que ce qui anéantit la personne, c'est la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qui donne vie à l'homme, c'est l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce dans quoi il y a la vie. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, on tire de cela que la vraie vie réside, et la vie du cœur réside dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah. Et que son contraire anéantit les cœurs. Et comme le poète a dit, l'ignorance a fait du corps de la personne une tombe pour son cœur avant sa vraie tombe dans la terre. Allahu Akbar. L'ignorance a fait du corps de la personne une tombe avant même le moment où il va entrer dans sa tombe dans la terre. Naam. Allah al-Musta'an. On tire de ce hadith la gravité d'avoir des rapports dans la journée de Ramadan pour celui qui a l'obligation de jeûner. Pour celui qui a l'obligation de jeûner. On tire de ce hadith que cela annule le jeûne de la personne. Cela annule le jeûne de la personne et c'est un grand péché. Et c'est un grand péché. On tire de ce hadith que c'était connu chez Sahaba que cette action est une chose très très grave. Parce qu'il est venu en disant halakt. Il n'a pas cherché le jugement. Il savait que c'était très grave. On tire de ce hadith que celui qui a un rapport avec son épouse, à partir du moment où il est entré, son jeûne est bâté. Il a la kafara, même si son liquide n'est pas sorti. Naam, certaines personnes ignorantes pensent que, à partir du moment où il n'a pas fini, il n'a pas l'obligation de faire le rousl, ni il n'a la kafara s'il est dans cette situation-là. Non. À partir du moment où il est rentré, naam, il a ces jugements-là, relatifs à cette action. Wallah al-musta'an.
on voit ici samahatu al-shari'at al-islamiyya. On voit l'indulgence et la douceur de la législation musulmane. Du fait qu'Allah Azza wa Jal ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il a dit non. Il lui a dit, alors, jeûne de moi. Il lui a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, alors, nourris 60 pauvres. Il a dit, je ne peux pas. Il ne lui a rien dit.
Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qa'iman, fa'il lam tastati' fa'a'iman, fa'il lam tastati' fa'ala jamb. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rasulallah, j'étais malade. Il lui a dit, prie debout, si je ne peux pas, alors prie assis, si je ne peux pas, alors sur le côté. Alors sur le côté. Non, et cette maladie, c'est une maladie connue qui fait que la personne avait des problèmes pour s'asseoir. Il a dit, fa'a la jamb, sur le côté. Non. Donc on voit la douceur de cette folie. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche pas une âme au-dessus de sa capacité. Et dans le hadith, dans ce hadith, le hadith d'avant, on aurait pu citer le verset, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wa fi sahih muslim qad fa'alt. Ou Allah ne tient pas rigueur si nous oublions ou si nous fautons. C'est-à-dire involontairement. Dans un hadith sahih muslim, Allah a dit hadith muslim, dit qad fa'alt, je l'ai fait. C'est-à-dire que ces fautes-là sont excusées. D'accord? Donc si la personne n'a pas la capacité, Allah a dit l'excuse. Allah Azza wa Jal l'excuse. On voit ici la grande miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sur Ma'ada, sur ses serviteurs. Et le fait qu'il a allégé pour lui, pour eux, sa religion. En dehors de Sahih Bukhari et Sahih Muslim, si je ne me trompe pas, fi ghayri sahihay, jaa miqdar ما كان في يعني كمية التمرات la mesure des dates, نعم, le poids des dates a été cité en dehors du recueil des Bukhari et des Muslim. نعم, ce qui nous a été cité c'était 25 صاع. 25 صاع, si mes souvenirs sont bons. Un صاع c'est 4 amoud. Un صاع, نعم, c'est 4 fois l'équivalent de mains jointes de nourriture. Par exemple, tu rentres tes mains dans un sac de riz une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on appelle ça un sac. D'accord? Un moud, c'est ça. Et 4 fois cela, ça s'appelle un sac. Ben, il y avait 25 sacs de dates. 25 sacs de dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a l'a appelé et il lui a dit de donner cela en sadaqa. Il lui a dit de donner cela en sadaqa. Est-ce que ce qu'il lui a donné c'est le kafara ou bien cet homme-là qui n'avait pas la capacité de faire les kafara ni la première, ni la deuxième, ni la troisième se retrouve déchargé de la kafara? Ceci est un sujet à divergence auprès des savants. Certains savants ont dit, celui qui n'a pas la capacité, sur le coup, s'en voit décharger. Même si le lendemain lui ramène, ou il touche de l'argent ou autre, lui, il s'en voit décharger. D'autres ont dit non, t'as pas fini le matin. D'autres ont dit non. Non. Cette chose lui incombe. Non. Elle reste dans son compte jusqu'au jour où il s'en acquitte. Et s'il meurt sans avoir eu la capacité, à ce moment-là, il s'en va décharger. Mais pas avant. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, suite à son incapacité de durer 60 pauvres, certains savants ont dit à partir de ce moment-là, il n'a plus rien à faire. D'autres savants ont dit, il n'a pas dit qu'il s'envoyait décharger. Bien au contraire, il lui a donné des dates pour qu'il les donne en aumône. Une autre divergence, certains ont dit donc cette aumône, en vrai, c'est la kafara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné par bienfaisance envers lui, pour qu'il la donne en sadaqa, et ainsi il aura fait sa kafara. D'autres ont dit non, c'est une sadaqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici il y a un ishkel, ici il y a un sujet qui est problématique. Si c'est le kafara, comment ça se fait-il qu'il a, il a le droit d'en manger et d'en donner à sa femme? Si c'est le kafara, il n'a pas le droit de la prendre pour lui. Mais savoir répondre à cela en disant, il y a un seul cas où la kafara, tu peux la donner à ta famille et en tirer profit. Ou bien un seul cas où toi, tu peux tirer profit de la kafara. C'est quoi? C'est dans le cas où une personne autre que celui qui est visé par l'homme a donné la chose. Vous comprenez? Ici, est-ce que c'est l'homme qui a ramené les dates ou on lui a donné? C'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu qui lui a dit tiens, pour faire ta kafara. Ben, il n'y a que ce cas-là où tu peux le donner à ta famille en tirant profit toi-même. En dehors de ça, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tu dois le prendre pour donner à quelqu'un d'autre. Mais si par exemple, un riche entend ton cas et il vient et te donne, ou l'imam entend ton cas et il vient et t'aide, ou un bienfaisant entend ton cas et il te donne, à ce moment-là, tu as le droit, si tu entres dans cette catégorie de personnes nécessiteuses, tu as le droit de l'utiliser. Donc on voit la douceur de l'islam. C'est le fait qu'Allah Azzawajal ne rend pas obligatoire à l'homme ce qu'il ne peut supporter. On voit que le prophète sallam a été doux envers lui car il est revenu repentant. Il est revenu affleuré, effrayé par la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit de ce hadith la permission de citer son état si ça n'est pas avec l'intention de se plaindre. Et si la personne a dit Awa ala afqara minni. Est-ce que je dois donner cela à une personne qui est plus pauvre que moi? Celui qui vient qui dit j'en ai marre, je suis pauvre, rien ne me réussit dans la vie, c'est haram. Parce qu'il se plaint. Non, il se plaint qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se révolte devant le décret. Ça c'est haram. Personne ne doit être endurant et remercier Allah Azza wa Jalla pour les bienfaits qu'on lui a donnés. Et regardez ceux qui sont dans une situation plus difficile que la sienne. Non. Par contre, de citer son besoin à Allah Azza wa Jalla, de citer son problème à Allah, bien qu'Allah soit plus savant, mais en signe de soumission, d'allaisement devant Allah pour lui demander et pour qu'il dissipe ton problème, c'est terrible. Comme nous fait les meilleurs des gens. Et Yaqub alayhi salam, Allah inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, wa alim min Allah ma la ta'lam. Je me plains de ma tristesse auprès d'Allah. Ceci est fermé, ça ne contredit pas, ça va. Par contre, de dire je suis malade, je suis pauvre, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi mes enfants, pourquoi. Ça, ce n'est pas les paroles des croyants. Pieux. Non. Tu dis Alhamdulillah, tu fais les causes pour sortir de ton problème. Tu te remets en question, toi. Tu sais que si tu es éprouvé, c'est parce que tu as des péchés. Alors tu te reprends et tu cherches la solution dans le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as le droit de dire je suis pauvre ou je suis malade ou j'ai un problème. Non, par nécessité. Mais pas pour te plaindre du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. On voit le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il a accueilli ce pécheur? Comment est-ce qu'il lui a fait da'wah? Nah. Comment est-ce qu'il s'est montré doux? Mais il ne faut pas dire que dans d'autres cas, on ne peut être sévère. Et dire alors, ça veut dire que la personne a un mauvais comportement. C'est ça la sagesse. C'est de faire ce qu'il faut avec la personne. Qu'il faut. Des fois, c'est la dureté, des fois, c'est la douceur, des fois, c'est mahaka. Des fois, c'est parler calmement, des fois, c'est élever la voix. Mahaka. Non. Et est-ce que le père peut toute sa vie parler et chuchoter avec l'enfant? Des fois, non, le vêtement sale n'est purifié de sa souillure qu'en le frottant, ses vernis. N'est-ce pas? Et des fois, les mains, tu les frottes pas pour les laver. Et des fois, juste de les mettre sous l'eau, ça suffit. Ça, là, là. Il y a une personne, tu lui dis salut. Tu lui dis salut. Prie, salut. Non, ça suffit. Une personne, tu lui dis « Salut !» Et lui, je me lève dans 5 minutes. « Salut !» Je me lève dans 5 minutes. « Salut !» Je me lève dans 5 minutes. Tu reviens du mosquit, il dort encore. Là, là, tu ne peux plus chuchoter avec. Ça, là, l'heure, elle peut peut-être sortir. Et toi, tu diras quoi? Non, moi, je suis un bon père. Moi, je ne m'élève pas. Avec un bar, là. L'enfant vole. L'enfant insulte. L'enfant ne respecte pas les personnes âgées. Et il lui dit, mon enfant, il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça. Ensuite, il en demande à l'enfant refait la même chose. Plus l'enfant a 10 ans, plus l'enfant a 12 ans, plus l'enfant a 15 ans. Et il agresse les gens. Il lui dit, mon enfant, il ne faut pas faire ça. Il dit, Mashallah, moi je suis un beau père, je n'ai jamais levé la voix sur mes enfants. Avec quel enfant il a? Hada Reyo Hakim. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. C'est quelqu'un qui n'est pas sage. Si ton enfant prend la parole alors qu'il y a des personnes âgées et il coupe la parole, alors qu'il est plus âgé. À ce moment-là, tu l'arrêtes sur place. Et je lui dis, mais là, de la quelqu'un là, qui s'est permis de prendre la parole, qu'as-tu dit ? Laisse place à ceux qui sont plus âgés que toi. Et l'enfant Sama va dans le plat et demande, tu lui dis, Ya Weled, Samilla, au moment où on dit Bismillah, Koulbi Yamin, mange avec ta main droite, Koulbi Mayak, mange de ce qu'il y a devant toi. Pas la peine de prendre sa main et de le corriger, non, sa enfant il ne sait pas, enseigne-lui. L'enfant vient à la mosquée et joue dans la mosquée et il fait du bruit peut-être. Il n'y a pas de nécessité à lever sa voix sur lui, il ne sait pas. Tu le prends et tu lui expliques ces mosquées, lorsqu'on fait la prière, il ne faut pas faire du bruit ou harakada ou harakada. Et tu le ramènes avec toi et tu lui fais aimer le mosquée. Et comme il a été sage la fois souvent, tu lui donnes une récompense. Là, tu lui donnes une récompense ou harakada. Donc, el hikma aziz. La sagesse est une chose très difficile à acquérir. Allah dit qu'il a donné la sagesse à qui ? Non, d'être sage, ce n'est pas une chose facile. Et pour être sage, il faut du ilm. Il faut étudier les différents cas du prophète pour le copier et le prendre en exemple. Certaines personnes ne savent que crier au lever la main. Et d'autres ne savent que dire. Et allez, 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 allez. Non, il faut le juste milieu. Il faut le juste milieu. On voit le hims au sahab. نعم على مجال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصد سوكا بلي كومبانيو quand tu apprends place dans les assises du prophète عليه الصلاه prendre la science, prendre le bon comportement et pour tirer profit des meilleurs fruits de ces assises عليه الصلاه والسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsque l'homme lui a posé la question, il a souri ou bien il a ri. وكان ضحكه تبسما. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم riait, il souriait. نعم il souriait, il ne riez pas de manière abusive. Non. Pourquoi est-ce que le prophète sallam dans ce hadith arrive ? Il arrive ta'addiban. Il arrive détonnement. Pourquoi ? Parce que lorsque cet homme est venu, il a dit halat. Ça, il était apeuré, effrayé. Non. Il cherchait juste une chose, une solution pour éviter le châtiment d'Allah. Ça. Et Allah, tellement que le prophète sallam était connu pour son bon comportement, ça, le fait qu'il soit facile à vivre. Et tellement il l'a bien accueilli, il a donné une réponse à son problème, à la fin l'homme a dit quoi ? Il a dit, est-ce que je dois donner ça plutôt que ma famille ? C'est-à-dire qu'il a espéré que cette sadaqa lui revienne pour sa famille. Regardez la différence de situation. Dans un premier cas, il est effrayé. Dans un deuxième cas, il est tellement en sécurité auprès de son bien-aimé qu'il demande au prophète sallam est-ce qu'il peut prendre ça pour sa femme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et là, tu vois la ta'wa du prophète sallam, comment est-ce qu'elle a donné de bon temps. C'est que la personne effrayée se retrouve dans un état de sécurité tel qu'elle espère que la sadaqa revienne à sa famille, alors que son seul souci, c'est d'avoir une solution pour ne pas rentrer en enfer. Non, pour ne pas rentrer en enfer. Falyatamashkal binabiyina ad-da'i. Donc, le prêcheur prend l'exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, en plus du hadith suivant, c'est un autre chapitre. Bab al-sawm fi safar wa ghayrihi. Ou taqul bab al-sawm fi safar wa ghayrihi. Le chapitre du jeûne en voyage et autre chose. C'est-à-dire que ce chapitre comprend un ensemble de hadith relatif au jugement du jeûne en voyage. Et en plus de cela, il y a d'autres sujets. Comme le fait de rompre son jeûne dans certaines situations. Le hadith suivant est le hadith de Aisha radiallahu anha, la Hamza ibn Amr al-Aslam. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ قال عفوا قال أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها نبي كحمزة بن عمرو الأسلمي dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je jeûne en voyage? Et on me dit entre parenthèses que c'était un homme qui jeûnait beaucoup. C'était un jeune, un homme qui jeûnait beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, si tu veux jeûne et si tu veux ne jeûne. Si tu veux jeûne et si tu veux ne jeûne pas. موضوع الحديث حكم الصيام في السفر. Le sujet du hadith est le jugement du jeûne en état de voyage. L'état de voyage comprend une chose. C'est celui qui a quitté son endroit où il est établi, où il vit, où il réside, vers un autre endroit. D'accord ? Entre ces deux endroits, on dit de lui qu'il est voyageur. N'est-ce pas ? Puis, on lit à ce cas-là deux autres cas qui ont le jugement du voyage. Le premier cas, c'est le cas de celui qui est arrivé et qui n'est pas encore rentré chez lui. Il est arrivé et n'est pas encore rentré chez lui. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer. Ou bien il reste moins de 4 jours et ensuite il y a une divergence pour plus de 4 jours. Ces cas-là ont le même jugement que le voyageur. Sinon, en réalité, le voyageur, c'est celui qui est entre les deux. Non, mais entre dans ce cas-là, ce que l'on vient de citer ici. De quel jeûne s'agit-il ? En apparence, vu qu'on nous dit « wakana kathira siyam », c'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup. On aurait pu s'attendre à quoi ? Un jeûne nafil, un jeûne non obligatoire. Un jeûne non obligatoire. Mais, dans le recueil des mains aussi, on nous dit qu'il est un marin. On nous dit que c'est un marin. Ouais. Sans cela, on aurait dit, les savants auraient dit, que Mahada, c'est un jeûne non obligatoire. Vu qu'on nous dit, qu'elle a cassé la sienne. C'était une personne qui jeûnait beaucoup. Et dans d'autres recueils, on trouve également cela. Dans ce hadith, ou de ce hadith, وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فِي فَضِيلَةُ حَمْزَةَ ibn Amr. On voit le mérite de Hamza ibn Amr, du fait qu'il jeûnait beaucoup. Et ainsi, tu comprends qu'Allah Azza wa Jalla facilite à qui il dit dans certaines portes de l'adoration. Les adorations sont multiples. Il y a le minimum obligatoire à faire, que tout le monde doit faire. Puis il y a des actions qu'Allah Azza wa Jalla facilite à chacun. Pour certaines personnes, c'est très très facile de faire la sadaqa. Ils font tellement la sadaqa qu'Allah Azza wa Jalla a mis un peu pour eux de sadaqa que la difficulté lui vient de ne pas faire sadaqa. Non pas de faire sadaqa, mais de ne pas faire sadaqa. Pour elles, un jour passé sans avoir fait sadaqa, c'est un jour où elles se sentent mal. Pour elles, elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. Comme si elles avaient fait un péché. Mais pour cette même personne, de jeûner un jour dans le mois, c'est très très difficile. C'est très 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 difficile. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas se manger de qui ne peut pas se passer de manger de bord bien de son épouse. Mais ça n'a pas qu'il peut donner, 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 donner. Il n'y a pas une porte de bien sans qu'il ne dépense de l'argent. Pour la mosquée, pour des pauvres, pour des orphelins, pour des veuves, pour payer la dette de quelqu'un, pour nourrir quelqu'un pendant la mavara, et ainsi de suite. Non, il va dans les commerces et il demande qu'est-ce qu'il y a des dettes. Sans moi ton carnet. Qui a des dettes ? Un tel, un tel, un tel, un tel, et lorsqu'il revient, dis-leur qu'ils n'ont plus de dettes. Allah Akbar. Qui a commencé à faire sa main? Tu as de l'argent. Tu vas dans un commerce où il y a un carnet de dettes. Hein? Et tu regardes les dettes. Hein? Et tu questionnes sur ces gens-là. On te dit du bien de telle personne, wa akada. C'est une femme seule avec ses enfants, miskina, akada, akada. Elle a combien de dettes? Elle a 300 euros? Non, elle a 0 de dettes à partir d'aujourd'hui. Tu lui donnes l'argent, tu lui effaces ça. Mais elle va me demander comment se fait-il. Tu lui dis quelqu'un qui espère la réponse à Allah à effacer cette texte. Que pensez-vous de serviteur qui revient vers Allah tabaraka wa ta'ala et il a enlevé cette grande affliction sur le dos d'une croyante qui souffre avec ses enfants? Que pensez-vous qu'Allah Azza wa Jalla va faire? Allah Azza wa Jalla nous enseigne, pensez nous enseigne qu'Allah Azza wa Jalla va enlever cette difficulté yom al-qiyam. Et la mettre sous l'ombre de son trône yom al-qiyam. On est dans les 10 derniers jours de Ramadan. Là, ou bien tu es au courant qu'un tel ou un tel a des dettes. Oui, tu te dois à toi-même. Tu te dois à toi-même. Et tu vois qu'il est en difficulté. Et l'échéance, c'est demain ou c'est après-demain. Dis-lui, après, je t'ai rajouté demain. Il vient pour te payer, tu sais qu'il est en difficulté. Peut-être qu'il a emprunté pour te payer. Dis-lui, non, reviens plus tard. Non, mais je veux pas avoir besoin. Je lui dis, reviens plus tard, j'ai pas besoin. Je reviens dans 2 mois. Si dans 2 mois, tu rencontres sa situation, et bien, soit tu prends l'argent, soit tu lui dis oui. Et une bonne nouvelle après. Sache que quand tu fais un prêt, hein, la moitié, c'est une sadaqa. Tu as prêté 1000 euros à quelqu'un, 500 euros, c'est une sadaqa. Oh, c'est là, 1500 euros, ça dépend. Et allez, la moitié, c'est une sadaqa. Et quand tu repousses après l'échec, chaque jour, Allah Azzawajal te donne une réponse. C'est un même titre, on a tous besoin de cela. Nous avons tous besoin de cela. Donc cet homme-là, on lui a facilité la science. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a cité l'histoire. Il a dit qu'il a rencontré un indien. Et ces gens-là, même avant l'islam, ils jeûnaient beaucoup. Et cet homme-là jeûnait tous les jours. Tous les jours, il jeûnait. Alors Ibn Baz s'est étonné. Mais Ibn Baz, c'était l'imam al-Sunnah. L'imam, rahimahullah ta'ala. Nous, on est étonnés, on dit « Waouh, magnifique !» Ibn Baz lui a dit « Non !» Il a dit « Hadha khilaf sunna !» Et il lui a dit « Jeûne, le jeûne de Daoud, un jour tu jeûnes, un jour tu jeûnes, il n'y a pas meilleure réponse. » Chahid Ibn Abi Hatim, ça, c'est que Ibn Baz s'est étonné. Puis, l'homme lui a dit « Je ne peux pas, j'arrive pas !» Il lui a dit « Quand je ne jeûne pas, je me sens mal, je tombe malade !» Allah Akbar. Tellement qu'il a l'habitude de jeûner, que c'est les jours où il ne jeûne pas qu'il se sent mal. Non. Mais il faut suivre la sunna, il ne faut pas dépasser les limites. Donc on tire de cela que Allah Azza wa Jalla facilite à qui il veut dans les actions. Des fois c'est difficile. Mais si tu prends l'habitude pour Allah Azza wa Jalla de faire un bien, sache qu'Allah va te le faciliter. Certaines personnes, par exemple, sont colériques. Et pendant le mois de Ramadan, elles ont l'habitude de boire du café. Ça, dans le Ramadan, elles arrêtent le café. Donc elles ont des migraines, elles sont un peu sensibles. Ça vous va comme ça ou pas? Sensibles. Vous acceptez? Elles sont un peu sensibles. Donc il ne faut pas les brusquer. Ben, cette personne-là, elle fait un travail sur elle-même. Elle dit aujourd'hui, je ne lève la voix sur aucun de mes enfants, même s'ils font effort. Aujourd'hui, je ne lève pas la voix. Aujourd'hui, Kada, il fait un effort. Premier jour, c'est très difficile. Il regarde son enfant, il bouillonne. Le deuxième jour, il a la voix. Le troisième jour, il a la voix. Et après, c'est un mode de vie. Cette vie devient calme. Et pour lui, de s'énerver, c'est que en cas de nécessité. Hakala, tu fais ça dans la colère. Tu fais ça dans tes retards. Tu fais ça dans ton comportement. Tu fais ça dans la salade. Tu fais ça dans l'ibada. Et ainsi de suite. Tu changes. Naam, tu demandes à Allah Azza wa Jalla. Et hadith à la manfa, à quoi c'est arrivé là. Naam, et petit à petit, tu vas voir qu'Allah Azza wa Jalla va réformer ta personne. Mais il faut faire des efforts. Il faut emprisonner son âme. Il faut emprisonner son âme en prière. Puis, cette prison deviendra un paradis. Retenez bien cela. Quand présente ton âme en vrai, au final, cette prison deviendra ton paradis. Mais au final, on va te dire ça. Tu vas dire, je suis bien. On va dire, mais ça. Tu vas dire, je suis bien. Je fais que le Qur'an, je fais que le Sahaba. Je suis avec les couteaux, avec les livres, les talbis. Et je vais sortir plus pareil dans une ère raciste, dans les sédaïs, au Mesjid, et ainsi de suite. Mais il faut prendre l'habitude. Certains parlaient que les prédécesseurs disaient pendant 30 ans j'ai fait des efforts et j'ai obligé mon âme à faire qu'il y a même. Et pendant 30 ans, c'est devenu mon plaisir. C'est-à-dire les 30 premières années, c'était difficile. C'était très long. Et elle a dit ensuite pendant 30 ans, c'était mon plaisir. Pour faire des efforts, pour habituer son âme à faire du rêve. Et pour ce faire, il faut faire petit à petit. Si tu sais de toi que tu es avare, tu es proche de ton argent, tu as du mal à donner. T'attends même que tes propres parents te demandent de l'argent pour leur donner. Ah, d'ailleurs, en islam, ça c'est honteux. Que t'attends que tes parents viennent te voir pour leur donner, Allah Akbar. Est-ce qu'ils ont attendu que tu aies faim pour venir travailler et te donner l'argent quand tu étais petit? Non. La nourriture, elle venait directement alors que tu étais encore dans le ventre. Ça, là. Ensuite, on te porte, tu as le lait. Et ensuite, la main de ta noble mère vient à ta bouche. Tu n'as même pas le ça, là, là. Et toi, maintenant, tu attends qu'elle te demande. Allah Akbar. Allah Akbar. Tu attends que ton père te demande. Et ensuite, tu vas poser une question à Jir. Mon père, il me demande de l'argent. Est-ce que je suis obligé de lui donner? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y en a la masse, les tueurs. Wallah. Ça, c'est l'âme, là. L'argent, il est à moi, subhanahu wa ta'ala. Il l'a mis à tes mains, pourquoi comment tu vas agir? Là, certaines personnes, même pour payer le loyer, wallah, même pour payer le loyer, ils se disputent avec ses parents, avec son épouse. Subhanallah. Il y a qui travaille, paye ton loyer. Wallah, sharafunak. C'est une noblesse pour toi que de payer ton loyer. D'entretenir ta famille, de dépenser pour tes parents. Là, même les gens qui ne sont pas de ta famille, des proches, des gens que tu entends qui sont dans le besoin, tu dépenses pour eux, c'est un bienfait d'Allah sur ta personne. Non. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te soigner? Dépense tous les jours un peu. Un peu, tu donnes un euro, le deuxième jour tu donnes deux, le troisième jour tu donnes quatre, et ainsi de suite. Et il y aura un jour où tu vas dire, ah non, j'ai pas donné, tu vas sortir chercher quelqu'un. Tu pourras plus dormir sans avoir donc. Un des plus prédécesseurs, quand il ne trouvait rien à donner, il prenait un oignon chez lui, et il cherchait quelqu'un et donnait un oignon en savoir. Hein? Allah Moustara. Et l'excuse, on ne connaît pas trop le kada, ça c'est nous. On ne commente même pas. Naam, on ne commente même pas cette excuse-là que Shaytan nous dicte. Aïe, on tire de ce hadith la permission de rompre le jeûne la journée de Ramadan pour celui qui est en voyage. Pour celui qui est en voyage. C'est ce qu'on appelle un rohas. Un rohas, ce sont les permissions qu'Allah Azza wa Jalla a accordées pour des personnes particulières dans une situation particulière. Par exemple, en voyage, tu as le droit de ne pas jeûner. Tu as le droit de ne pas jeûner. En voyage, tu as le droit de coller le zahra fil asr, le asr et le maghrib avec l'aïcha. Non, c'est ce qui s'appelle rohsa. Rohsa tullah. Un rohas. Et Al-Rohas se divise en trois. Ces permissions se divisent en trois. La première, Rohasun al-Abdal fi'lu. Premièrement, des permissions qu'Allah a accordées. Et le meilleur affaire, c'est de prendre cette permission. Le meilleur affaire, c'est de prendre cette permission. Par exemple, tu es en voyage. Et à l'heure du Asr, tu sais très bien que tu seras en mouvement. Le mieux, c'est de prier dans le juste après l'Asr, et ensuite tu reprends la route. Non. Le mieux, c'est de prendre, saisir cette occasion et de prendre cette facilité. C'est ça le meilleur. Parce qu'Allah aime pour toi la facilité. Il veut dire, Allah veut pour vous, Allah veut pour vous la facilité. Donc, comme quoi, aussi, elle passe au fait safar. Le fait de diminuer les prières, de 4 unités de prière à 2, et de faire 4 heures au Asr et au Isha, tu en fais. Deuxièmement, yastawi fihi au fi al-abar. Deuxièmement, c'est égal. On ne dit pas ça c'est meilleur ou ça c'est meilleur. Non, c'est égal. De faire ou de ne pas faire, c'est égal. De saisir l'occasion ou pas, c'est égal. Comme toi, par exemple, comme je vais en voyage. Tu jeûnes en voyage. Non, c'est quoi le mieux? C'est jeûner ou c'est rompre le jeûne? On dit c'est pareil. Il n'y a pas de meilleur. À la base, sans prendre d'autres points dans la mas'ala. Si on nous demande de manière absolue comme ça, c'est quoi le meilleur, on ne dit pas le meilleur. Si tu me jeûnes, tu ne me jeûnes pas. D'accord? Si tu jeûnes, alhamdoulilah, si tu ne jeûnes pas, tu rattrapes en dehors de Ramadan. Le troisième cas, c'est Rohas al-Lati al-Ardalu al-Qura. Les permissions dont leur délaissement est meilleur. Dont leur délaissement est meilleur. Par exemple, le fait de ne pas joindre le Dhuhr et le Asr en voyage alors que tu n'es pas en mouvement. Le mieux, c'est de prier le Dhuhr à l'heure et de prier le Asr à l'heure. Mais tu fais le Asr. Mais tu ne fais pas le Dhuhr directement le Asr alors que tu n'es pas en mouvement. Le mieux, c'est de ne pas faire le Dhuhr dans ce cas-là. Mais c'est permis. Ici, ce sahabi, qui était très fort dans le jeûne et à qui Allah Azza wa Jalla a donné le plaisir dans cela, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais? Le sallallahu alayhi wa sallam comme tu veux. Si tu veux jeûne, et si tu veux, romps le jeûne. On tire de ce hadith, hirsu sahaba ala al-ilm wa al-amal bi, la motivation, la détermination qu'avaient les compagnons dans les bonnes actions, dans la science et la mise en pratique de cette science. Dans l'apprentissage de la science, c'est dans sa mise en pratique. Parce que très souvent, ils étaient accompagnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, si tu connais une personne de science, qui est sur la sonde, qui est de bon conseil et qui a un bon comportement, essaye de la fréquenter. Essaye d'être en contact avec elle. Essaye de parler avec elle. Parce que ce sont des personnes qui sont mubarakas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bien à être avec elle. À chaque fois que tu la fréquentes, tu la racontes, tu vas apprendre du bien. Tu vas te rappeler ce que tu as oublié. Tu vas appliquer ce que tu délaisses. C'est. Tu vas délaisser des péchés, tu vas faire de l'action, tu vas prendre une sunna, tu vas délaisser une bid'a, tu vas prendre un tawhid, tu vas purifier du shirk. Dans le meilleur des cas, tu vas pas perdre ton temps. Ou dans le pire des cas, tu vas pas perdre ton temps. On tire de ce hadith, ta'hirul musafiri bayna as-siyam wal fitr. On tire de ce hadith que le voyageur a le choix entre le fait de jeûner et de ne pas jeûner. On tire de ce hadith, sihhatu sawmi musafir. On tient de ce hadith le caractère authentique du jeûne du voyage. Celui qui est en voyage et qui jeûne, est-ce que son jeûne est valable ou pas? Quand ça va, on dit non. Non. Car Allah a dit, celui qui est en voyage, il doit rattraper des jours. Mais en réalité, il y a des choses qui sont sous-entendues, c'est quoi? Non, celui qui est en voyage. Ou malade et qui jeûne, maintenant et qui rompt son jeûne, c'est celui-ci qui doit rattraper. Mais celui qui a jeûné n'a pas le rattraper. Comme c'est la vie prépondérante, ça va. On tire de ce hadith, Ithbatu Mashi'at al-Abd. Wa fi hadha raddu ala tabriya. Min al-firaq al-dalla, man qala inna al-abd la mashi'at al-Abd. Donc de ce hadith, on tire une réfutation contre une des sectes appelées al-Jabriya. Ceux qui ont occulter la volonté du serviteur. Ils disent, le serviteur n'a aucune volonté. Par exemple, là, je vais vouloir lever ma main. Je lève ma main, je dis, non, c'est pas toi qui as levé ta main. C'est pas, t'as pas de force, t'as pas de volonté. Non, t'es comme une feuille ouverte. C'est Allah qui a levé ta main. Toi, tu ne fais rien, t'as pas de volonté. Tu veux marcher, dormir, manger, croire par croire, prier par prier. T'as rien fait, c'est pas toi. Ils disent, toi, tu es soumis à une volonté suprême et tu n'as aucune volonté. Non, tu n'as aucune volonté dans tes choix. Tu es telle une feuille au vent. Ça, c'est une secte. Non. Mais dans ce hadith, le prophète m'a dit « In shik ta fasoum »« In shik ta fa'aftir » Si tu veux, jeûne. Si tu veux, on jeûne. Donc le serviteur a une volonté. Tu ne peux pas te cacher derrière le destin pour dire « j'ai fait tel péché » alors que tu ne t'en repens pas. Non. Après le repentir, tu as le droit de dire « Qadar Allah wa ma shafa'a » Ou parce que c'est possible, tu as le droit de dire qadar Allah, comme l'a fait Adam avec Moussa, alayhi salam. Par contre, tu es dans les péchés et tu dis, c'est Allah qui a décidé. Hein? Non. Allah Azzawajal décide de tout, mais Allah a décidé que tu devais l'obéir. Et a décidé que celui qui le désobéit mérite un châtiment. Donc il faut prendre tous les textes, pas une partie des textes. Et tu tombes dans l'irja. Hein? Et tu tombes dans l'irja, tu dis que les péchés ne nuisent pas à la foi. Là. Ah, les péchés, la foi ça augmente, la foi ça diminue. Non. Et celui qui fait des péchés doit avoir peur de son retour vers Allah Azza wa Jal. Il doit savoir qu'Allah le voit et l'entend et qu'il sera jugé pour cela. On tire de ce hadith, Yusru Shari'at al-Islamiyya, la facilité, l'indulgence et la douceur de la législation musulmane. Non. Et qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous la facilité. Yuridullah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et dans le voyage en général, comme nous le dit le prophète, c'est une difficulté, c'est un bout de châtiment, c'est dur en général le voyage. Alors tu as le droit de rompre ton jeûne, même si tu voyages en avion en première classe. Et le voyage ne dure qu'une heure, tu as le droit de rompre ton jeûne. Mais ici on parle de la difficulté, parce qu'en général c'est le cas du voyageur. C'est le cas du voyageur. Donc celui qui voyage et qui se demande est-ce que je suis obligé de jeûner, on lui dit non. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu rattrapes ton jeûne et tu es. Le second hadith, عن Anas ibn Malik رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Alors le Bukhari Muslim. Anas ibn Malik رضي الله عنه dit nous voyageons au avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et le jeûneur ne faisait pas de reproche à celui qui ne jeûnait pas. Tout comme celui qui ne jeûnait pas ne faisait pas de reproche à celui qui jeûnait. Donc il voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. موضوع الحديث حكم صوم رمضان والفطر في الصف. Ici, dans ce hadith, on étudie le jugement du jeûne pendant le mois de Ramadan en étant en voyage et le jugement de rompre le jeûne. On voit que les deux, c'est quoi le jugement? C'est la permission. C'est la permission. Alors, c'est le moment avec nous dit qu'il voyagea avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que certains jeûnaient et certains ne jeûnaient pas. De quel voyage s'agit-il ici? Dans quel mois du plutôt? C'était pendant le mois de Ramadan. C'était pendant le mois de Ramadan. Comment est-ce qu'on sait ça? Directement du hadith. Certains jeûnaient, certains jeûnaient pas. D'accord. Pendant le mois de Shawwal, moi et toi en voyage. Toi tu jeûnes parce que t'es pur, moi je jeûne pas parce que je suis non pur. Un jeûne pas, ça veut dire qu'on est dans le Ramadan? Non. Comment? Il y a le blâme. Et donc, si l'action n'avait pas été obligatoire, on n'aurait pas parlé de blâme. N'est-ce pas? Comme notre frère a dit, car ici, on fait mention de blâme, de critique, de reproche. Et lorsque l'action n'est pas obligatoire, là-bas, c'est qu'il n'y a pas de blâme ni de reproche. Donc on sait que c'est un jeûne obligatoire. C'est un jeûne obligatoire. Fihi jawaz al-fitr fi safar. De ce hadith, on tire la permission de rompre le jeûne en voyage. Quelle est la preuve dans le hadith de cela? C'est quoi le dalil? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, il n'a rien dit. Jazakallahu khayr, hada ilmun kabir. Allah te récompense en bien. Enfin, c'est une grande science que tu nous rappelles ici. Min al-adillati shar'iyya iqrar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, qawlan aw fi'lan. Na'am, aw sukutan aw ghayra dhalik. Ici, on tire la permission de rompre son jeûne en voyage. C'est quoi la preuve? C'est ce qu'on appelle al-iqrar. Al-iqrar, c'est l'acquiescement. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit présent dans une situation, il voit une chose, il entend une chose, et il ne dit rien. Il ne dit rien, ça prouve qu'il acquiesce cette chose. D'accord? Qu'elle est permise. Biljumla. On tire de ce hadith que l'iqrar du Nabi sallallahu alayhi wa sallam hujja, que les acquiescements du prophète sallallahu alayhi wa sallam entrent dans les preuves religieuses. On tire de ce hadith la facilité de la religion musulmane. C'est qu'en voyage, la personne peut ne pas jeûner. Si elle veut jeûner, elle jeûne. Et ici, on voit le comportement des savants entre eux lorsqu'ils divergent dans une question ijtihadiyya. Dans une question ijtihadiyya. Na'am. On voit le comportement des ulama et le comportement des personnes de la droiture lorsqu'elles divergent entre elles dans une question où on n'a pas les pas de réflexion. D'où on tire ça dans le hadith? C'est que le sahabi lui dit, fallait dire le sahabi ou al-muftir. Ouais, le muftir ou al-sahabi. Donc certains ont jeûné, certains n'ont pas jeûné. Est-ce que ce sont des reproches? Non. Alors que c'est les jeunes du Madrama. Tu veux dire alors dans une mas'ala où Dalil n'est pas là? Donc certains ont fait l'effort de réflexion. Ou bien il n'y a pas de Dalil. Bil manto, alors les gens cherchent. Et lui, son effort de réflexion, il a amené à telle réponse. Mais elle est à telle autre réponse. Quel devrait être leur comportement? Est-ce qu'ils vont dire Anta mutin, Anta bad? Est-ce qu'on va dire toi t'es dans le faux, t'es égaré? Est-ce qu'on va parler comme ça? Hein? Par exemple, c'est quoi le jugement de manger de la viande de chameau? Est-ce que ça coupe le l'ouro? Ça coupe les ablutions? Si on mange de la viande de chameau, ça coupe les ablutions? D'accord. Si moi je mange de la viande chameau et je viens, je suis l'imam et je fais l'imam. Et moi je dis mon avis, moi ça ne coupe pas le jeûne parce que j'ai étudié avec Chez Mantel, il a dit ça, ça ne coupe pas le jeûne. Moi j'ai lu son mari et pour moi je suis votre mari. Ça ne coupe pas le jeûne. Et toi tu as étudié avec Chez Mantel, un autre chien, et tu as vu que ça coupe le jeûne. Ça coupe le lourd au pas. Ça coupe le lourd. D'accord. Comment on fait? Et après la salade, je remercie en fait parce qu'il nous invite à manger la viande de chameau. Et je n'ai pas refait le wudu. Et tu dis, subhanallah, ça veut dire qu'il n'a pas fait le wudu. Moi, je vois sa prière, je vois son wudu n'est pas sacré. Comment on fait? Est-ce que tu dis, t'es égaré, t'as fait salade, et t'as même pas refait le wudu? Hein? Non. Ça, c'est une masala. Il y a des hadiths là des deux côtés. Les savants vont faire l'effort de réflexion. Certains sont arrivés au niveau de dire que ça coupe le wudu, d'autres au niveau que ça ne coupe pas le wudu. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de blâmer la personne qui a suivi le madame au niveau qu'elle a atteint. Avec les preuves, le nom est là. Avec les preuves, le nom est là. Elle s'arrêtait à son niveau. Tu n'as pas le droit de la blâmer. Et si tu la blâmes, tu auras exagéré dans la religion. Vous avez bien retenu? Mais t'as un point. Maintenant que je commence une autre phrase. Et celui qui enregistre, il enregistre aussi une autre phrase. Bon, avec, comme on est en 2000, je ne sais plus combien, je précise. Même avec les tests, il y en a qui mentent. Alors, non. Maintenant, elle incar al-fa'i wa munaqashatuh. Al-ilmiya wa munadaratuh. Voilà. Est-ce que ça s'est permis ou pas? Premièrement, on a parlé d'action, elle a été faite. On a dit, on ne peut pas le critiquer pour ça et parler sur lui pour ça. Parce qu'il a suivi Dalil et revenu à l'âme. Naam, il a appris. Et c'est Masalaj qui a dit, ouais. Maintenant, qu'en est-il de lui, cet homme-là qui a pris cet avis? Est-ce que j'ai le droit d'aller le voir et lui dire, Harry, tu as suivi cela et tu as fait cela, wakada. Ce problème-là, c'est pas grave. Parce que, kala, et je débat et dis, tu entends. Est-ce que ça, j'ai le droit ou pas? Ou bien, je dis, comme il y a un khilaf, j'ai rien de droit de lui dire. Il y a un khilaf, j'ai rien de droit de lui dire. C'est quoi la vie, juste dans cette masala? Est-ce que j'ai le droit de me réfuter sa parole? Et dire dans mon cours, un tel s'est trompé. Ha, c'est ça, parce que Allah, Allah, il y a la main, ils ont dit ça, ils ont démontré. Donc il est encore. Il ne faut pas suivre son avis. Non. J'ai le droit. Est-ce que ça, c'est de la médisance? Non. Allah, il a pensé. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Et les ulama, jusqu'à notre époque, le font comme Sahaba l'ont fait. Mais le problème, c'est que chez les ignorants, la limite, bien qu'elle soit vraiment large, on dirait qu'elle est très fine. Dans le cas où c'est une nasiha, il dit c'est de la médisance, c'est dans le cas où il faut faire une nasiha, il se tait. Tu dis pourquoi je ne fais pas de nasiha? Tu dis sinon ils ne vont pas m'aimer, sinon ils vont parler sur moi. Hein? Il voit le haram, devant lui, il se tait, parce qu'il est faible et il est pauvre. Hein? Et il voit que les gens de l'Ahlus Sunna n'arrivent plus à vous bida et à vous battre. Et il dit il ne faut pas parler, on est tous des musulmans. Hein? On est tous des musulmans, d'accord. Lui, il en cite Aïcha, il en cite Khadija. D'accord. Al-Rawaf, il parle d'Aïcha. Al-Rawaf. Et l'Ismaïliya, ces gens-là qui n'ont aucune part de cela. Hein? Ceux qui disent, ça, le Coran, c'est pas le Coran. Ça, c'est le sens apparent, mais il y a le Coran, il peut lire entre les lignes, et c'est pas le bas, hein? Et que tu peux adorer les saints, tu peux faire des offrandes aux morts, et ainsi de suite. Hein? Et qui disent que Aïcha et que Maza et que Hafsa sont des hypocrites et qu'Abu Bakr et Omar sont les plus grands apostats de la communauté, ainsi de suite. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit non, c'est des musulmans, on est musulmans. Notre Seigneur, il est unique. Hein? Et la Qibla, il est unique. Et on a tous foi en Allah. Et ainsi de suite. On dit ça? Hein? Et le joint entre ce qu'Allah a demandé là, Maza a séparé. Adama Yajus. As-Sukud al-Mutele, la Yajus. Se taire sur les gens du faux et les gens qui sèment le mal, c'est haram. D'accord? Et il y a le consensus des plus prédécesseurs sur le fait de réfuter les gens des passions. Non? Et même certains papas ont compris ce que certaines personnes s'affiliant à la science n'ont pas compris. Certains papas ont dit qu'Allah vous récompense. On dit pourquoi ? Et parce que vous mettez en garde contre les gens du faux, comme ça nos enfants ne vont pas tomber dans les sectes. Et ils ne vont pas tomber avec Daesh, avec les extrémistes. Les papas ont compris ça. Non. Et certaines personnes qui prétendent être par là, ils disent non, moi je ne fais pas de médisance, moi je ne rentre pas dans ça, c'est pas permis, kala, kala. Puis lorsqu'il a un problème, il vient lui-même nous parler sur un. Tu fais pas de médisance, pourquoi tu parles sur lui? Ah, maintenant ça te concerne toi, maintenant ça concerne ton argent, ça concerne ton patron. Là on peut faire de la médisance. Et pour la science et la religion de Allah, les parasites de la terre, on ne peut pas parler. Et préserver les musulmans des trompeurs et des feinteurs, non. On doit apprendre notre religion et savoir ce qu'on a le droit de dire et ce que nous n'avons pas le droit de dire. Donc il faut bien faire cette distinction, elle est très importante. Quand il y a une mas'ala ijtihadiyya, que la personne est revenue au ulama, qu'elle a soumis les textes, je suis de la critique. Non. Quant à son ilm et son âme, tu vas le voir ensuite et tu débats avec lui et tu réfutes. Et tu dis qu'il est en tort, et tu te bases sur l'île, et tu reviens vers la main. Ça, c'est clair. Et ça ne veut pas dire qu'il y a la haine dans les cœurs, les uns envers les autres, pas du tout. Mais toi, tu secours la vie que tu vois comme étant véridique. Et lui, secours la vie qu'il voit comme étant véridique. Non, la vie comme étant véridique. C'est pour cela que le lama conseille de ne pas étudier avec un seul savant. Comme ça, tu entends deux autres aussi. Tu prends tout chez un savant les bases. Ensuite, tu étudies aussi avec d'autres. Non. Et une parole d'un des plus prédécesseurs qui m'a plu. Mais bon, je ne peux pas la citer. J'ai oublié qu'il y a un point qui est interdit dans certains pays. Ça y est. Après ça, si vous venez voir, je vous dis une chose. Mais ça aurait été bien de la faire entendre, au fond. Aïe. La permission de rompre son jeûne dans le mois de Ramadan est tirée également du hadith, suivant le hadith de أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صحيح عبد الله البخاري مسلم أبو الدرداء سكنيا اسمه عويمة ابن عامر il fait partie des savants chez Sahab. Il fait partie des savants chez As-Sahaba, Ansar al-Hazra, radiallahu anhu. Il est surnommé Hakim al-Hadid Umma, le sage de cette communauté. Et faites-moi penser, Inch'Allah ta'ala, à l'occasion, on parlera de sa biographie. On parlera de sa biographie, Inch'Allah ta'ala. Il y a beaucoup de choses qu'on doit traiter, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite cela. Et puis, Ibnillah, Azza wa Jalla, après Ramadan, tout ce qu'on a dit, Ibnillah, on va le faire. La biographie de l'Allah Mokbil ibn Hadi al-Wadi'i, la Sira de Khadija de Fatima, de Moussoulaï, et tout ce qu'on cite, Inch'Allah. Et Allah sait que c'est par manque de temps, pas d'envie. On voit ici dans ce hadith qu'en voyage, la personne a la permission de rompre le jeûne. On voit dans ce hadith le mérite de Abdullah ibn Rawah et sa force à supporter le siyam. Son mérite du fait qu'il a fait comme le prophète alayhi wa sallam. Et plus la personne fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus elle atteint un sunnah. Mais les autres ont rompu le jeûne car c'était difficile. Et en cela aussi, ils ont atteint un sunnah. Amoudou al-hadith, hukmu sawmi ramadan fi safar. Quel est le jugement du jeûne à Ramadan en voyage? On voit que c'est permis. Parce que le prophète l'a fait, et Abdullah ibn Rawah l'a fait, et le prophète ne lui a rien dit. On tire de ce hadith que le meilleur n'est pas de rompre son jeûne en voyage. Le meilleur n'est pas de rompre son jeûne en voyage, parce que le prophète ne fait que le meilleur. Et lui, un jeûne. et lui a jeûné. On voit ici le mérite d'Abdullah ibn Rawah dans le fait qu'il a jeûné. Il a donc fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite, c'est toujours celui qui fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on regarde les points relatifs à cette mas'ala extérieure. On voit la permission de le jeûne dans le mois de Ramadan. Mais le meilleur, al-afdal al-fitr liman shaqqa 'alayhi as-sawm. Le meilleur pour la personne, c'est de rompre son jeûne si le jeûne pour lui c'est difficile. Par contre, si ça lui nuit, ça devient haram. Si ça lui fait vraiment du mal, à ce moment-là, il y a même dit que ça devient haram. Le hadith suivant, hadith Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah, son sahabi, fils d'un sahabi. Son sahabi, fils d'un sahabi. Il nous dit, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر قال زحاما ورجلا قال قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيعطون لصحابي. Et il a participé à toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf la ghazwa de Badr et la ghazwa de Uhud. Est-ce que vous savez quoi? Tous ceux qui sont mariés, écoutez, et tous ceux qui ont des enfants, écoutez. Et tous ceux qui ont des parents, écoutez. Donc écoutez tous. Ça? Naam. Quelle est la mort? Ça va pas. Car. Non. Adam, il y a un ilm qui a des masalas. On va voir. Ça, c'est du ilm. C'est pas la réponse. Donc, il est où ton fils? Sont des cheveux. Alors, t'as une réponse? Non? Non. Comment? Il jeûnait? C'était quoi ma question? Et non, je suis fatigué, peut-être que je n'ai pas posé la bonne question. Mais suite à ma réponse, je me permets de te demander quelle était ma question. Pourquoi il n'a pas participé à la bataille de Uhud, à la bataille de Badr et à la bataille de Uhud? Tu dis qu'il jeûnait? Non. Indaman. Intéressant qu'à Mahdi? Appelle-moi ton prénom. Mahdi? Ah ben d'accord, mais t'as une réponse? Non. Parfois, on était dans la séance de science. On en français, on avait l'Allah Ta'ala commencé à poser la question à un. On faisait presque deux à notre fort intérieur qui nous interroge pas. Tellement qu'on avait le stress de répondre en public. Non. Alors que chez nous, on coupait la parole pour répondre quand on avait un semblant de bonne réponse en famille. Quelle est une réponse? La réponse, elle est très simple. La réponse est que son père, Abdullah radiallahu anhu, lui a dit, reste à midi et tu vas t'occuper de tes sœurs. Allah. Il avait plusieurs sœurs. Son père lui a dit, tu viens pas. Il a dit, je viens. Il lui a dit, tu viens pas. Et il lui a dit, je viens. Il lui a dit, tu viens pas. Tu restes à midi et tu vas prendre soin de tes sœurs. Allah. Non. Il se couche, il va à l'eau. Son père est décédé au combat, radiallahu anhu. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu? Hein? Tazawwaj. Il s'est marié directement. Tazawwaj, Sayyiba. Il était jeune, il a épousé une femme divorcée. Puis il a mis auprès de ses sœurs et il est parti avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé une femme pour qu'elle s'occupe de ses sœurs et prenne soin de ses sœurs. Et ensuite, lui, il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a plus manqué de bataille. Il n'a plus manqué de bataille dans les mois. Ça, c'est les jeunes de chez Sahab. C'est pas les jeunes de. On ne parle même pas des jeunes, pardon. Allah, Sahab. Non. Et parmi nous, il y a des jeunes en Barnabek. Non. Il y a des jeunes en Barnabek. On les aime comme nos enfants. Non. Lorsqu'il s'est marié, je parle de sahabi car c'est l'habitude d'Ahlul Hadith, des savants du Hadith, lorsqu'ils expliquent un hadith, de dire quelques mots sur un sahabi, surtout ceux qu'on n'a pas desquels nous n'avons pas parlé auparavant, donc j'en écho. Donc, lorsqu'il s'est marié, le prophète lui a dit Sayyiba ou Bikr. Il lui a dit je t'ai marié avec une femme qui a déjà été mariée, en général elle est plus âgée, Naam, ou une femme vierge, Naam, qui n'a jamais été mariée. Et il lui a dit Sayyiba. Il lui a dit pourquoi tu t'es pas marié avec une jeune fille, Naam, qui n'a jamais connu le mariage, Naam. Et il a cité d'autres choses. Alors il lui a répondu, parce que Abdullah est décédé, il a laissé plusieurs filles. Alors j'ai épousé cette femme-là pour qu'elle m'aide dans cette tâche. Regardez, subhanallah, chez Sahaba, épouser une femme, c'est pas épouser une femme pour épouser une femme. Qu'est-ce que c'est épouser une femme pour être taqwa? C'est épouser une femme pour dé, c'est épouser une femme pour gagner un prix. Et au-delà de ça, c'est permis que tu l'épouses parce qu'elle te plaît, parce que tout ce que tu veux de halal, Naam, mais c'est pour nous montrer, yani, comment est-ce qu'ils étaient, radiallahu anhu. Ceci étant dit, Jabir ibn Abdillah, pour finir sur lui, fait partie de ce qu'on appelle les Mukthirin. Naam, de la poignée de compagnons qui ont rapporté plus de 20 milliers de hadiths. Et lui, il a rapporté 1540 hadiths environ. 1540 hadiths environ. C'est énorme, radiallahu anhu. Moi, vous, les hadiths, le Moussiyah, حكم الصيام في السفر لمن شق عليه كاين لو جوجمون دو جون ان فواياج pour celui pour qui le jeûne est difficile pour celui pour qui le jeûne est difficile. Quel était ce voyage? C'était le voyage pour Fath Makkah. Ce voyage, c'était le voyage de Ghazwatul Fath Makkah. Naam, en l'an 8 ou 9 de l'Hégire. Et durant ce voyage, un homme a jeûné. Et de par la lourdeur et la difficulté de cela, et par le soleil aussi, il est tombé, il s'est évanoui. Alors les gens sont venus autour de lui. Quand le prince a vu cela, il est venu, il a dit qu'est-ce qu'il se passe? On lui a dit jeûne. Alors le prince a dit ne fais pas partie de la piété de jeûner en voyage. Ne fait pas partie de la bienfaisance. Mais c'est-à-dire, c'est pas une chose qu'on recherche pour se rapprocher particulièrement d'Allah Azza wa Jalla que de jeûner la fois en voyage. La parole de Abdel Ghali Maqdisi rahimahullah ta'ala wa li muslimin alaykum bi ruqsatillah allati rakhasa lak fait partie de la minorité des phrases qui ont été reprise à Abdul Ghani al-Mahdisa rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire qu'il a attribué cette parole à l'imam muslim. Il a annexé cette parole-là au recueil de l'imam muslim. En réalité, elle n'est pas dans le recueil de l'imam muslim. Mais c'est plutôt une parole qu'il rapporte. Non. C'est pas une version du hadith auprès de l'imam muslim reconnu et authentifié par l'imam muslim. Mais plutôt, là, on la trouve auprès d'autres que lui. On la trouve auprès d'autres que lui. L'imam aussi m'a dit, quand la Shu'bah, Shu'bah c'est un grand muhaddis, un grand savant du hadith, qui était très très sévère à l'égard des gens de l'innovation, et qui était très jaloux pour la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit que Shu'bah a dit, que Yahya ibn Abi Kathir, c'est un grand hadith, un grand savant aussi, chez les petits tabi'i, qu'il rapportait ce hadith et qu'il mettait cette phrase-là. Il a ajouté cette phrase qu'à la fin. Donc le tabi'i, ou tabi'i, disait cette parole-là. Il dit, mais comment je suis venu le voir et master le hadith sans ajouter cela? D'accord, donc ce n'est pas l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, qui a cité cela. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. On voit de contenir de ce hadith que le prophète sallam prenait soin de ses compagnons. Donc lorsque tu as des compagnons, tu dois t'enquérir de leur état. Là, tu dis pas on ne l'a pas vu depuis longtemps. Tu dis je ne l'ai pas vu, alors je vais le visiter. Peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il est malade, tu l'appelles. Là, tu l'appelles. Ou si tu vois qu'il change ou qu'il un visage triste et haut, tu viens le voir, tu discutes avec lui, tu sais savoir ce qu'il a. C'est ainsi qu'est venu le prophète. Et après, à Salat al-Maqrouda, des fois, il ne disait pas la parole à Athènes. Qu'a fait Athènes? Où est Athènes? Non, pourtant, les investisseurs, c'est pas facile de savoir, de remarquer qu'un tel n'est pas là. Non, et certains papas de la mosquée d'Azharullah au Khayr, lorsque je m'absente, ils me téléphonent directement. Et ils me demandent, t'es où? T'as pas vu? Wakada. Azharullah au Khayr. Non, et peut-être que tu es malade, peut-être que tu as besoin de quelque chose. Et ça, c'est une chose qui est en conformité avec la sunna. Non, tu appelles tes proches, tu appelles les frères, tu cherches des nouvelles de tes compagnons, particulièrement celui que tu vois régulièrement, ou bien filmes-t-il. Lorsque tu le perds de vue, tu dois inquiéter de son état et de sa situation. Donc on voit le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. On voit également كراهية الصيام في السفر لما شق عليه الصوم لغير مضرة. On voit le caractère détestable du jeûne en voyage pour celui qui souffre quelque peu de son jeûne, mais sans que ça ne lui nuise, ça ne lui fait pas de mal, mais c'est lourd, c'est difficile. Pour lui, le mieux c'est de rompre son jeûne et de le rattraper plus tard. Non, pour lui, le mieux c'est de rompre son jeûne et de le rattraper plus tard. Quant à celui à qui ça fait vraiment du mal, il n'a pas fait que c'est haram pour lui de jeûner. On voit la chouïa qui est l'akhd al-rukhas. Wa adamu m'adam ijhad al-mar nafsahu fima rukhisa lahu fi. On voit la permission de prendre les facilités qu'Allah nous a permises. Nous a permis et le fait de ne pas pousser sa personne au maximum en se faisant du mal, alors qu'Allah nous a permis plus facile que cela. Mais l'islam, c'est pas... Allah ne veut pas de toi que tu te fasses du mal. C'est pas recherché. L'adoration, elle n'est pas recherchée pour se faire du mal. Non. Ou tu te fais souffrir volontairement. Ça, c'est pas le dîme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dîme, c'est la facilité. Et la facilité, elle est dans le dîme. Le dîme, c'est la facilité. Et la facilité est dans le dîme. Certaines personnes pensent que le dîme, c'est prendre le plus dur. Ils pensent que c'est meilleur parce qu'il a fait le plus dur. Non. Non, c'est pas ça le meilleur. Il y a un chemin où c'est large et il est facile à emprunter. Il y a un chemin où il y a de l'eau, il y a de la boue. Et quand il passe son chemin, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Tiens, il passe son chemin. Facile. Non. Tu as le choix entre prendre un vêtement qui est comme ceci, un vêtement qui est comme ça. Ou plutôt, tu as le choix d'aller parler pour un tel endroit qui est proche de chez toi. Tel autre endroit qui est proche de chez toi. Plus proche. Comme pour ça, il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile. Il choisissait la plus facile. Pour finir, quelle est la meilleure chose à faire? Pour finir, quelle est la meilleure chose à faire en voyage? Est-ce que c'est de jeûner ou de ne pas jeûner? On a vu que de manière absolue, cette masala, c'est qu'il n'y a pas de meilleure. Si tu veux, tu jeûnes, si tu veux, tu jeûnes. Maintenant, on va ajouter des éléments. Celui pour qui, en voyage, le jeûne est plus facile que de le rattraper en dehors de Ramadan par la suite, le mieux pour lui, c'est de jeûner. Est-ce que c'est compris? Tu es en voyage, on te demande, tu me dis c'est quoi le meilleur? Je te dis c'est quoi le plus facile pour toi? Tu me dis le plus facile pour moi c'est de jeûner parce qu'on est en Ramadan et tout le monde jeûne. Ou bien les commerces sont fermés. Ou bien, tout le monde jeûne chez moi. On te dit alors le meilleur pour toi c'est de jeûner. Pour plusieurs sagesses. La première c'est que le jeûne aura lieu dans Ramadan. Et de jeûner dans Ramadan c'est mieux que de jeûner dans Ramadan. Deuxièmement c'est Adorat Bimba, ou Asra Idal. Tu auras accompli l'obligation et tu seras déchargé de l'obligation. Et on ne sait pas de quoi devoir peut être fait. Parfois, le bébé, tu peux tomber malade, tu peux être occupé et ainsi de suite. Donc, plus vite tu fais ton obligation, plus vite tu es déchargé de cela chez Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il y a les jours de Shawwal à jeûner. Certains savants ont pour position que pour avis qu'il faut avoir complété la Ramadan pour jeûner chez moi. D'accord ? C'est un avis qui est discutable, mais c'est un avis chez les saints. D'accord ? Et d'autres salaires, ce n'était pas les saints. Par contre, si pour toi, c'est difficile de jeûner en voyage, d'accord ? Et que pour toi, le plus facile, c'est de le rattraper dans l'année. Soit d'un coup, soit en séparant, soit en attendant l'hiver, quand les jours sont plus courts, et ainsi de suite, c'est pas de problème. Tu coupes ton jeûne de Ramadan en voyage et tu le rattrapes en dehors de Ramadan. Donc, c'est quoi la réponse? Le meilleur à faire, c'est le plus facile. Et ça nous montre une fois de plus la douceur des saints et la facilité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans Siyam, que ce soit dans toutes les portes de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد حديث عن صحيح احاديث le premier hadith est le hadith de qui de Aisha et de Umm Salama رضي الله عنهما qui était sur quoi sur le caractère valable du jeûne de celui qui a commercé durant la nuit et qui rentre dans le fait en état de jeûne. Son jeûne est valable. Ensuite, on a étudié le hadith de qui? De Abu Huraira, sur le fait que celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne est valable. D'accord? Qu'en est-il de celui qui a un rapport avec son épouse pendant la journée de Ramadan, il dit j'oublie. Hein? Il ne peut pas oublier? T'es marié? Non. D'accord. Il n'est pas marié. Taïe. Allah te facilite la piété, d'accord, d'une femme pieuse. Donc, quel est le jugement du jeune de celui qui a un rapport pour la journée de la parole? Il dit j'oublie. Certains savants disent que son jeûne il n'est pas appelé, son jeûne il n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux. Et si lui a oublié, comment elle seule va oublier? Ils sont deux, ils ne peuvent pas oublier seul. Donc en général, ce n'est pas plus possible d'oublier une chose de la sainte. D'accord? D'autres savants ont dit c'est la même chose dans les autres chaînes. Manger, boire, relation, toute chose. Si ça avait oublié, son jeûne est valable. Est-ce que c'est compris? Et ça, c'est la vie de Moutaïmi, à Allah. Et la vie de d'autres parmi les renards. Mais, t'oublie pas, Inch'Allah. C'est juste pour citer la Mas'ala. Sinon, c'est une chose qui est baïda, quand même. C'est une chose qui est assez loin de l'esprit de trouver quelqu'un qui dit j'ai oublié. Non? Allah Moustaïm. Le hadith suivant était le hadith d'Abu Huraira sur le jugement du jeûne de celui qui a rapport durant la journée de Ramadan. Sur ce hadith-là, qui est-ce qui a la kafara? Est-ce que c'est que l'homme ou l'homme et la femme, s'ils ont rapport dans la journée de Ramadan? Est-ce que la femme a la kafara ou pas? Non, c'est que l'homme, c'est la femme. Ben, j'en change dans les femmes. C'est quoi ta peur? C'est que le prophète, il a dit à l'homme, fais ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais il n'a pas dit à la femme. Donc ça, c'est le premier avis. C'est-à-dire que c'est que l'homme qui a la kafara. Qu'elle soit consentante ou non. D'accord? Ça arrive que l'homme force la femme, elle ne peut pas être jeûner. Mais lui, c'est un homme et il n'est plus pour qu'elle. D'accord? Elle, quand elle est en état de jeûne, elle veut protéger son jeûne. Dans ce cas-là, il y a la maladie, c'est que l'homme. Mais certains savants disent, même si elle est consentante, il n'y a que l'homme qui a la kafara, car le prophète n'a pas cité. D'autres, il y a la maladie, non, les deux ont la kafara mu'allaqa. Les deux ont la kafara mu'allaqa. Pourquoi? Parce qu'elle est consentante, pour qu'elle ait plus peur que mon nisa, chafa et pour médial. Les femmes sont les conscientes de ça. Donc la femme a le même jugement que l'homme. Ensuite, on a parlé des hadiths sur le voyage. Celui qui est en voyage, il peut rompre son jeûne. Le premier hadith. Le hadith de Hamza ibn Amr, ensuite Al-Hadith ibn Malik, puis Abu Darda, puis Jabir ibn Abdillah. Tous ces hadiths-là sont sur le jeûne. Inch'Allah ta'ala, demain, on continuera le chapitre du jeûne. Et Inch'Allah ta'ala, on parlera sur l'Ashra al-Akhir et Laylat al-Qadr. Non, au Asr, Inch'Allah ta'ala. Et Mada, non, demain Allah Azza wa Jal, il accepte de nous nos faibles actions, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il accepte notre jeûne et nos prières. Et n'oubliez pas, on est dans les derniers jours du mois de Ramadan. Il ne reste que quelques jours et on ne sait pas si l'année prochaine on va être vivant. Non, et on a passé une année et chacun de nous sait ce qu'il a fait cette année, chacun de nous connaît ses péchés. Donc il ne faut pas laisser le mois de Ramadan sortir sans avoir eu un repentir sincère chez Allah Ta'ala, sans avoir fait du bien. Et on est distrait, il y a certaines bonnes actions qui sont faciles. Dépense de ton argent pour les pauvres, dépense de ton argent pour ceux qui ont besoin, de ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui sont endettés, dépense de ton argent pour la mosquée. Visite le malade, fais du'a et ainsi de suite. Et fais beaucoup d'efforts dans la nuit de Ramadan. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك